La voix de Tom Wolfe à 7h44 sur France Culture. Une voix qui vous touche, Ronnie Broman. Bonjour, vous êtes ancien président de Médecins Sans Frontières. On va parler d'autre chose que de littérature, mais peut-être un mot, car je sais que vous êtes un grand lecteur de Tom Wolfe.
Enfin, un grand lecteur. J'ai lu deux livres de lui avec une jubilation que je ressens encore aujourd'hui à entendre sa voix. C'était... J'ai lu Fear and Loathing in Las Vegas, je ne me souviens plus du titre français. C'est le premier livre anglais que j'ai lu, alors ça m'a aussi marqué. Et puis Le Bûcher des Vanités, bien entendu, qui est une description de la société new-yorkaise, des tensions de classe et de race qui marquent New York, qui est absolument magnifique et que j'ai presque envie de relire rien qu'en en parlant.
Tensions de classe et de race, malheureusement, on va faire une transition vers une scène tragique, celle qui s'est déroulée à Gaza avant-hier. 60 morts, c'est le dernier bilan des affrontements du lundi 14 mai survenu à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, alors que la Turquie et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait hier en urgence. Conflit israélo-palestinien, du sang, des larmes. Et après, on va essayer de faire le point sur la situation. Ronnie Broman, on a décidé de vous prendre comme invité unique et on va essayer de résumer tous les deux les différents arguments en présence de part et d'autre de l'échiquier politique. Mais tout d'abord, votre vision de ce qui s'est déroulé là-bas à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Ben, ça tient d'abord en un mot, c'est un massacre. C'est un massacre puisque l'armée a aligné des dizaines de snipers, des tireurs d'élite, protégés par un talus, qui alignait dans leur viseur des gens qui ne représentaient aucune menace directe pour eux et qui, je le rappelle tout de même, étaient en territoire palestinien. Donc l'armée israélienne réprime une manifestation en territoire palestinien. Pour ceux qui estimaient que Gaza était évacué, qu'il n'y avait plus de présence israélienne, bien c'est un dur réveil, c'est un rappel à la réalité, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Par ailleurs, c'est un événement qui prend place, enfin il y a une sorte de poupée gigogne, il y a un emboîtement d'événements. Il y a ces manifestations en rapport évidemment avec le 70e anniversaire de la création d'Israël, la commémoration de la catastrophe de l'expulsion de 700 000 Palestiniens. Il y a la protestation contre le blocus de Gaza. Si on élargit un petit peu, il y a évidemment la protestation contre le déménagement de l'ambassade israélienne, de l'ambassade américaine, pardon, à Jérusalem. Lapsus significatif. D'ailleurs, on se demande qui représente qui dans cette histoire. Et puis, lorsqu'on prend les choses de façon un peu plus large, il y a la nouvelle donne géopolitique marquée par le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en Iran, qui est une source de tensions régionales accrues. Donc, il y a une série d'événements, une convergence sinistre actuellement, et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut examiner la situation.
Si on essaie de restituer les arguments de part et d'autre, Ronnie Broman, une partie des médias israéliens disent aujourd'hui que le Hamas a envoyé un certain nombre de civils à la mort. Je dis un certain nombre parce que, et ça même la presse de gauche israélienne le dit, une partie de ces gens étaient des combattants du Hamas, disposés de manière à ce qu'ils puissent tenter de percer la clôture entre la bande de Gaza et Israël. Que pensez-vous de cette présentation des faits ?
Je pense qu'elle n'est pas entièrement fabriquée, que évidemment le Hamas régnant à Gaza, il va de soi, et d'ailleurs même s'il ne régnait pas à Gaza, mais enfin en l'occurrence en plus il est là, il va de soi qu'il ne peut pas se permettre d'être absent d'une telle manifestation. Mais lui prêter la possibilité d'envoyer des dizaines de milliers de personnes à la frontière, de répéter ses envois semaine après semaine, c'est lui accorder une force et un crédit politique que, à mon avis, il a largement perdu. Le Hamas a bénéficié d'un soutien qui était largement dû au rejet de l'autorité palestinienne en raison de sa corruption, de sa faiblesse, de son inefficacité politique et sociale. Le Hamas a donc surfé sur cette vague qui lui a été offerte par l'échec de l'autorité palestinienne. Il a depuis longtemps entamé et puis dilapidé son crédit. Et aujourd'hui, si des élections se produisaient, je ne suis pas du tout certain que le Hamas les gagnerait. Donc lui prêter la possibilité, lui accorder ce cadeau politique, évidemment, qui arrange un certain nombre de gens, puisque un face-à-face entre Israël et le Hamas, c'est ce que veut le Likoud, c'est ce que veulent les durs de l'extrême droite israélienne. Mais enfin, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a évidemment des militants du Hamas, il y a incontestablement des gens qui doivent avoir des armes là-dedans, mais la disproportion entre les forces israéliennes massées à la frontière, les 13 bataillons appuyés par des unités de police, par rapport à des dizaines de milliers de manifestants qui, eux, sont dans leur immense majorité, enfin c'est à quelques exceptions près qu'il faut noter les hommes armés, face à eux, cette disproportion n'est pas du tout entamée par cette remarque.
Alors, toujours dans le même registre, et ça, c'est aussi le Haaretz est le quotidien de la gauche israélienne qui l'analyse aujourd'hui, Roni Broman, on explique que la fin de ces violences hier a été concomitante d'une part avec une volonté d'apaisement menée par l'Égypte, puisque l'Égypte aurait servi de go-between, autrement dit d'intermédiaire entre Israël et le gouvernement de la bande de Gaza. Le fait qu'il n'y a pas eu de manifestation hier parce qu'il y aurait eu des pressions sur le Hamas, probablement par exemple des pressions pour dire qu'à partir du moment où les manifestations ne cessaient pas, eh bien il y aurait des cibles précises sur les chefs du Hamas, et que c'est ce qui expliquerait que ces manifestations n'aient pas eu lieu. Si les manifestations n'ont pas eu lieu dans ce contexte-là, est-ce que ça n'est pas le signe que le Hamas était peut-être quand même plus puissant que vous ne le dites ?
Ça me semble aller vite en besogne. Vu la violence répétée qu'exerce l'armée israélienne sur toutes ces manifestations, on peut comprendre qu'il y ait un petit peu de mou, on ait peur de retourner vers la frontière. Je rappelle, parce que les auditeurs ne sont peut-être pas informés, que la frontière israélienne est double d'une certaine manière. Il y a la frontière qui est la clôture, et puis il y a cette zone démilitarisée imposée par Israël de 300 à 500 mètres de large sur une bande qui fait 10 kilomètres. Donc 300 à 500 mètres sur 10 kilomètres, ça fait une portion significative de territoire palestinien qui est entièrement sous contrôle israélien, ce qui est une incitation supplémentaire à protester contre la présence israélienne. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir sur le fait que il y a forcément des hauts et des bas dans une mobilisation aussi longue, aussi exigeante, aussi dangereuse, aussi risquée que cela. Donc, avant d'en tirer la conclusion que lorsque le Hamas est mis en question, les manifestations n'ont plus lieu et que donc il agit, il presse, ce sont des manifestations presse-bouton, il me semble qu'il faut attendre un petit peu. Mais il est vrai que l'Égypte joue un rôle à la fois de médiateur entre Israël et les Palestiniens, mais également de porte-voix des Américains, donc aussi joue un rôle dans le sens de l'écrasement de tout l'écrasement pacifique, lui, parce que l'Égypte n'agit pas directement à Gaza. Enfin, joue le rôle tout de même d'allonge, disons, du gouvernement américain, puisque ce régime égyptien ne tient que par la volonté des Américains.
Alors c'est une double frontière effectivement, qui sera bientôt une triple frontière, parce qu'il y a un autre mur qui est en train d'être construit, et il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a sur un territoire qui est quand même assez restreint, donc d'une part la bande de Gaza, de l'autre côté des habitations, des villes, des kibboutz, qui sont bien souvent des kibboutz qui ont été construits dans un but stratégique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une interprétation pénétration entre l'aménagement du territoire et le guerrier en Israël, et ces kibboutz étaient menacés par des tunnels qui étaient creusés par le Hamas et qui donc servaient à conduire ou pouvaient servir à conduire des combattants du Hamas contre ces kibboutz, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement israélien justifie la présence de No Man's Land, Roni Broman.
Mais la répression a ceci de caractéristique que c'est un cycle sans fin. La répression appelle de la révolte, qui appelle plus de répression, qui engendre plus de révolte, et ainsi de suite. Donc, on peut continuer indéfiniment à construire des murs, à masser des policiers, à entraîner des unités d'élite, à tirer sur des gens désarmés, à semer la haine pour justifier sa propre violence. C'est absolument sans fin. Moi, je ne cesse de dire depuis des années que j'ai l'impression, en regardant la politique israélienne, d'assister d'assister à un suicide au ralenti, d'assister à une lente pression de la gâchette avant que la balle tire et ne traverse la tempe.
Suicide qui commencerait quand, selon vous ?
Qui commencerait, je pense, dans les années 90 avec l'assassinat de Rabin et le durcissement constant depuis cette époque-là de la politique israélienne concernant les Palestiniens. C'est-à-dire à peine un chef d'État, d'ailleurs le seul, qui a eu le courage de considérer que la solution du problème avec les Palestiniens passait par autre chose que des mobilisations militaires, des bombardements et des emprisonnements arbitraires, mais par une reconnaissance de son adversaire et une discussion politique avec celui-ci. Bref, que la sécurité n'est pas qu'affaire de fusils, mais aussi affaire d'entente avec ses voisins. Rabin a été le seul, il a payé cela de sa vie, et depuis lors, qu'il s'agisse de Pérez, qu'il s'agisse de Ehud Barak, ou de successeurs, de Sharon, et a fortiori de Netanyahou, on a vu qu'un durcissement continue au fil des années de la politique israélienne. C'est cela que j'appelle ce suicide, c'est sans fin, et enfin, plus exactement, je pense que ça ne peut avoir qu'une fin tragique.
Mais alors, ce durcissement, il a une parenthèse, c'est, vous parliez d'Ariel Sharon, Ariel Sharon, alors Premier ministre de l'État d'Israël, décide en 2005 de restituer de manière unilatérale, peut-être reviendrez-vous sur le terme d'unilatéral, décide de restituer Gaza, qui était donc ce territoire, parce qu'il faut dire aux auditeurs que c'est un tout petit territoire. Dans ce territoire, il y avait des implantations israéliennes, ce qui suscitait toute une série de problèmes moraux et stratégiques. Sharon décide d'évacuer la bande de Gaza avec des scènes très dures, puisque ces colons ne se laissent pas faire. Il y a...
Enfin, la mansuétude de l'armée israélienne vis-à-vis de ces colons qui ne se laissaient pas faire a quelque chose de frappant lorsqu'on la met en contraste avec la dureté implacable vis-à-vis des Palestiniens.
Oui, il n'y a pas eu de balles tirées effectivement à ce moment-là, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est une bande de Gaza dont Israël se retire. On dit à l'époque que ça va devenir le Singapour ou le Hong Kong du Moyen-Orient, et le Hamas en vient au pouvoir 2 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la situation est aussi unilatérale que vous le dites, dès lors qu'Israël a évacué la bande de Gaza, Ronny Bourmat?
La situation n'est pas unilatérale. Elle est asymétrique, mais elle n'est pas unilatérale. Que les choses soient claires. Il y a des responsabilités palestiniennes. La désagrégation à la fois politique et morale de l'autorité palestinienne, sa corruption, la pratique de la torture ne sont pas pour rien dans la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens. Donc je tiens à ce que les choses soient claires de ce côté-là. Je n'approuve pas du tout cette politique. Simplement, nous sommes dans une situation d'occupation et d'asymétrie, et il faut situer des responsabilités au niveau où elles sont et ne pas toutes aplanir. Alors pour ce qui concerne la responsabilité, disons l'évacuation de Gaza, je rappelle que les Israéliens s'en sont retirés pour mieux verrouiller Gaza, que Dov Weisglas, le principal conseiller de Sharon à l'époque, ne cachait pas ses intentions lorsqu'il disait, dans une interview accordée d'ailleurs au journal Haaretz, que le retrait de Gaza était le gel du processus de paix. Je dis bien le gel du processus de paix, ce sont les mots qu'il a employés. Donc la dimension, disons, stratégique de ce retrait n'échappe à personne, mais la signification de cette stratégie, elle, peut être vue différemment, c'est-à-dire pas comme l'amorce d'une discussion avec les Palestiniens, puisque d'une part, l'autorité palestinienne est totalement discréditée, on ne lui adresse même pas la parole, on ne l'informe pas de ce qu'on va faire, on la tient soigneusement à l'écart. Donc si on avait voulu mettre le Hamas comme unique créditeur, comme unique bénéficiaire du retrait israélien, on n'aurait pas agi autrement, et je pense d'ailleurs que c'est très explicitement ce que les Israéliens voulaient faire. Avoir le Hamas en face d'eux, couper la bande de Gaza de la Cisjordanie, et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement réussi. Je pense que c'est un échec qui leur coûtera à terme très cher, mais c'est une réussite tout de même.
Alors, il y a quand même une chose sur laquelle le Hamas s'entend bien, c'est montrer qu'il est l'interlocuteur privilégié, puisque il y a eu encore un attentat récent, le 13 mars dernier, dans la bande de Gaza, un membre du gouvernement du Fatah, autrement dit de la faction palestinienne qui dirige la Cisjordanie, est venu en visite à la bande de Gaza. Il a été victime d'un attentat, il en a réchappé, Rami Hamdallah, mais c'était une preuve de plus que la réconciliation était impossible, et c'est un signe pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou que le Hamas est le seul interlocuteur dans la bande de Gaza, et c'est ce qu'invoque le gouvernement pour dire « nous n'avons pas d'autres personnes à qui parler ».
Oui, enfin, d'une part, précisons que cet attentat a été condamné par le Hamas, que à ce jour, la lumière n'a pas été faite sur les auteurs de celui-ci, et donc qu'on ne peut pas imputer au Hamas cet attentat, et je crois personnellement qu'il n'a rien à y voir là-dedans, que c'est plutôt une perte d'autorité qui s'est signalée dans cet attentat que quoi d'autre qu'autre chose.
On va continuer à évoquer la situation en Israël et en Palestine, mais on va prendre du recul sur l'histoire palestinienne. Vous allez nous raconter votre conception, Roni Broman, de cette tragédie, car c'est une tragédie qui a lieu aujourd'hui au Proche-Orient. Et vous nous direz ce que l'on peut faire, ce que l'Europe peut faire pour tenter de remédier à ces scènes tragiques qui se répètent à intervalles réguliers. En attendant, il est 8h sur France Culture.